We do biz.
We do biz.
Devenons business.
Vous l'attendiez depuis des semaines, elle réapparaît. C'est effectivement ce matin Passerelle PME. Nous sommes ravis de vous retrouver aujourd'hui en présence de Monsieur Desmond de Safran qui nous accompagne pendant 18 minutes de Passerelle PME. Bonjour Monsieur Desmond.
Bonjour.
Merci de nous accueillir. On va parler de ce beau groupe parce que depuis quelques semaines, on voit beaucoup de fleurons de l'industrie française. Et là, pour le coup, on est gâté. Alors pour les quelques ignares, effectivement, Safran ne fait pas d'épices. Ça permet de donner un peu d'humour à cette émission. On en a toujours besoin. Mais c'est un groupe de haute technologie assez fantastique, qui on pourrait prendre d'ailleurs plus que 18 minutes pour en parler tellement il est vaste aujourd'hui. On va quand même essayer de s'atteler à cette tâche en quelques minutes pour décrire ce groupe, ses filiales, ses activités, parce que bon, d'abord beaucoup de personnes, un gros chiffre d'affaires, une présence internationale, des secteurs d'activité dans l'équipement aéronautique qui peuvent se diviser en compartiments, donc le mieux, c'est que vous le fassiez, parce que je le referai pas aussi bien que vous. Donc, une petite description, déjà quelques chiffres, ça va tout de suite mettre le paysage en place pour citer le nombre de personnes qui travaillent pour Safran et les chiffres, quelques chiffres.
Donc, le groupe Safran, c'est effectivement une entreprise haute technologie. En 2011, on a réalisé 11,7 milliards de chiffres d'affaires avec un résultat net de 664 millions d'euros.
Oui.
Safran, c'est 60 000 personnes. 40 000 en France, on a toujours un ancrage
gros
très
attachement
fort
français.
En France. Et on est présent dans trois secteurs d'activité. Le premier et le principal, c'est l'aéronautique, mais on a également une activité défense et une activité sécurité.
Oui.
Donc, dans l'aéronautique, la propulsion représente plus de 50%,
oui.
Avec des sociétés comme Snecma pour tout ce qui est moteur d'aviation civile et militaire,
oui.
Turbomeca pour les turbines d'hélicoptères, Snecma Propulsion Solide pour les activités spatiales et les missiles, et TechSpace Aero pour des parties de moteur à la fois pour des clients externes et pour des clients internes.
Ouais. Alors finalement le groupe est maillé un petit peu sur tout le territoire. Alors pour tous ceux qui connaissent l'heure, ils connaissent la Snecma et les moteurs d'Ariane, si je ne me trompe pas, et certains types de propulsion, mais vous êtes maillé sur tout le territoire.
Exactement. Donc, on a des activités dans toute la France, avec bien sûr deux grands pôles, un pôle sud-ouest et puis un pôle dans la région parisienne.
Oui, ouais. Qui suivent ces mêmes activités. Alors, Safran, vous me disiez aussi, c'est une forte croissance. C'est-à-dire que vous avez la chance d'être sur des marchés qui, eux, croissent aujourd'hui et qui sont liés à votre activité, j'imagine, internationale, du coup.
Ben, c'est une forte croissance dans sa partie aéronautique, mais pas seulement. Hein.
Ouais.
On a une activité en très forte croissance, la sécurité.
Ouais.
La sécurité, on devait faire un chiffre d'affaires d'environ 400 millions d'euros en 2007.
Ouais.
Cette année, on est largement au-dessus du milliard.
D'accord.
On a aussi une activité dans la défense, cette fois-ci, qui est un petit peu plus stable compte tenu de la conjoncture.
Oui.
Mais c'est vrai que la grosse croissance est dans le domaine aéronautique.
Oui.
On est tiré par nos clients, mais également par le succès d'un certain nombre de nos best-sellers, dont le moteur CFM56.
Bien sûr. Qui sont les gros clients qui vont tirer vers le haut aujourd'hui, ou en tout cas les grandes régions du monde, si on peut s'exprimer comme ça? Ce sont celles dont on parle tous les jours et qui sont celles qui sont en croissance, contrairement à nos économies européennes.
Bien sûr,
ouais.
Y a l'Asie qui se développe très fortement, mais il ne faut pas négliger non plus le potentiel d'un certain nombre de marchés traditionnels, et en particulier les États-Unis, avec le besoin de renouvellement de la flotte américaine qui est très ancienne.
Ouais. Il y a des géants comme le Brésil qui sont en train de naître, ça fait partie des propulseurs de l'activité propulsion ou autre.
C'est des marchés qui sont significatifs,
mais pas encore,
j'ai envie de dire, les plus gros marchés sont quand même, les plus prometteurs, c'est le marché asiatique.
Ouais. L'activité sécurité, alors on n'en a pas parlé en présentant cette émission, mais c'est vrai que pour beaucoup d'entrepreneurs, quand on parle sécurité ou de technologie, on parle souvent Israël aussi, où il y a des innovations incroyables. Est-ce que c'est un pays avec lequel vous avez des collaborations particulières? Parce qu'on est tous, nous y compris dans l'Internet, en train de travailler avec les Israéliens sur tout un tas d'innovations majeures. C'est quelque chose qui vous préoccupe aussi ou qui sont des partenariats forts?
On collabore avec Israël, mais pas seulement dans la sécurité.
Ouais.
On a des fournisseurs qui sont des fournisseurs très importants dans la partie aéronautique, sur des aubes par exemple.
Ouais.
C'est un acteur important, c'est un fournisseur, et puis c'est un marché intéressant pour nous. Oui.
Alors pour nos éditeurs, et ça c'est extrêmement important parce qu'on va parler beaucoup d'international avec Monsieur Desmond tout à l'heure, ne pas oublier que nous sommes malheureusement le 9e partenaire européen d'Israël aujourd'hui, ce qui est extrêmement bas par rapport à ce qu'on peut attendre de ce pays qui du coup exporte l'essentiel de ses nouveaux produits d'ailleurs vers les États-Unis et pas vers l'Europe, manque de collaboration avec nos pays européens. Donc on y reviendra pas, mais c'est à noter. Alors Safran aujourd'hui, forte croissance sur certains domaines, on a cité les grands domaines d'activité. Alors, si on revient, et ça va nous amener vers notre sujet, sur, vous me disiez tout à l'heure, Safran est né finalement avec aussi plein de petites entreprises, ça fait partie de sa genèse, ça fait partie de son histoire. Racontez-nous un petit peu d'où vient cette histoire entre Safran et ses PME dont elle a effectivement besoin et réciproquement pour avancer sur ces marchés.
Oui, c'est vrai. Aujourd'hui, hein, si on fait un constat dans mon panel de fournisseurs pour tout ce qui est production, c'est-à-dire c'est les matières, les composants, les systèmes qui rentrent dans la nomenclature des produits qu'on livre aux clients, on a 3200 fournisseurs qui sont significatifs, c'est-à-dire qui ont livré un chiffre d'affaires significatif l'année dernière. Et sur ces 3200 fournisseurs, il y a près de 1200 PME françaises.
Plus du tiers.
Donc c'est quelque chose de très important. Et c'est important aussi parce que le groupe Safran et Snecma en particulier, c'est une société qui est assez récente, qui s'est fortement développée à partir des années 70. Et à partir de cette date-là, il y a tout un tissu industriel qui s'est constitué autour de Snecma et qui s'est développé avec lui. Donc ces PME-là font partie de notre histoire. On a des relations historiques avec elles. Et on a des relations qui sont extrêmement intimes.
Alors vous me disiez tout à l'heure, justement, c'est à la fois la force et la faiblesse, c'est ce niveau de dépendance qui vous, en même temps, qui est important, parce que c'est une garantie pour ces PME, et en même temps, qui est ce que vous citiez tout à l'heure, c'est-à-dire trop de dépendance peut effectivement fragiliser ces entreprises. Donc l'une de vos préoccupations fortes, c'est comment je réduis le taux de dépendance de ces PME du groupe Safran sans les perdre à côté de vous, parce que c'est aussi des partenaires très importants. Donc c'est cette gestion d'équilibre qui est pas facile.
Effectivement, dans certains secteurs d'activité, dans la mécanique en particulier, une PME française qui se spécialise dans ce secteur a pas beaucoup de clients potentiels. Donc elle a forcément, si elle est spécialisée dans le domaine et si elle est en pointe et performante, elle a forcément un taux de dépendance élevé avec Safran. Donc nous, ce qu'on essaye de faire, c'est d'inciter ces PME à évoluer, à atteindre une certaine taille critique, à développer leur portefeuille client, pas seulement en France, mais aussi à l'international, à essayer de travailler sur une diversification de leur portefeuille d'activité, pas seulement dans l'aéronautique, mais aussi dans des périmètres connexes.
Bien sûr. Donc ça, c'est un point clé, et vous le disiez très justement tout à l'heure, finalement, elles ont une technologie qui est très en pointe, elles travaillent avec un client qui lui-même, vous-même, est extrêmement en pointe, donc elles ont une vraie valeur ajoutée pour des clients étrangers. Donc vous les poussez à deux choses. Un, ce que souhaitent tous nos politiques, c'est d'avoir plus d'ETI, qu'on a appelé un temps les gazelles, et puis c'est devenu ETI, donc bon, à part à Paris, personne n'a compris ce que c'était, mais grosso modo, on va dire des entreprises de plus grande taille, pour simplifier. Et puis donc, les pousser à l'international et les pousser à la consolidation. C'est vraiment deux enjeux extrêmement forts pour vous. Augmenter leur taille, les pousser à aller à l'étranger.
Oui, en fait, le business model aéronautique a évolué ces dernières années. Maintenant, les donneurs d'ordre souhaitent de plus en plus partager des risques avec leurs partenaires. Vous ne pouvez pas le faire réellement avec une société qui a une taille de 10 millions d'euros. Il faut avoir une certaine taille critique pour commencer à assumer des risques liés au business model aéronautique. Donc, en plus de ça, les PME qui ont un fort taux de dépendance avec Safran, les PME françaises, sont très vulnérables dans les bas de cycle. Et puis, j'ai envie de dire, même dans les périodes de croissance, beaucoup d'entre elles ont du mal à financer cette croissance.
Donc vous disiez, l'un des moyens de les aider, notamment, c'est une très forte communication pour leur dire, écoutez, voilà le profil de boîte qu'on a envie d'avoir autour de nous, ressemblez le plus possible à ce profil et nous irons tous loin ensemble. En gros, donc très forte politique de communication chez Safran là-dessus.
Oui, nous ce que l'on recherche en fait, c'est voir émerger des ETI qui se positionnent par rapport au groupe Safran en Tier 1, c'est-à-dire qui sont capables de gérer plusieurs étapes de valeur ajoutée en interne, de fédérer une supply chain et de gérer une supply chain pour compléter ces étapes de valeur ajoutée, nous livrer une fonction complète, mais même auparavant, participer au développement de cette fonction, et puis tout au long d'un programme, partager les risques avec nous.
Ouais. Et vous disiez que, du coup, pouvoir les intégrer même à vos développements, c'est-à-dire faire c'est un vrai partenariat, c'est plus de la sous-traitance, c'est ce qu'on appellerait plus de la co-traitance, enfin, je sais pas quel est le terme le plus adapté, mais de les impliquer dans ce développement.
Exactement. Ce que l'on cherche avant tout, nous, c'est passer de fournisseurs qui nous livrent une étape de valeur ajoutée à des fournisseurs qui nous livrent une fonction complète.
Oui.
Donc, acheter une chambre de combustion complète plutôt que d'acheter l'ensemble des composants.
C'est clair.
Et puis gérer la complexité de ces achats plus l'assemblage en interne, oui. C'est vraiment ce qu'on recherche.
Alors, deuxième outil extrêmement important, parce qu'en ce moment, il y a beaucoup d'agitation autour de ce qu'on appelait le corporate venture, c'est-à-dire l'idée effectivement que les grands groupes puissent seuls ou ensemble d'ailleurs, parce qu'on a vu des activités transversales de grands groupes qui se regroupent pour financer des PME. Mais il y a un outil financier chez vous qui s'appelle l'Aérofund, donc il porte bien son nom. Comment ça fonctionne? Et si demain j'écoute cette émission et je me sens un fournisseur potentiel de Safran et j'ai besoin d'argent pour mon développement, comment ça marche en quelques mots?
Bah, en fait, Aérofund, c'est un fonds qui a été abondé à l'origine par Airbus, la Caisse des dépôts,
oui.
Et Safran.
Oui.
D'autres acteurs nous ont rejoints depuis. Et la vocation de ce fonds, bah, c'est de participer au renforcement de la filière aéronautique. Mmh. Et c'est un fonds qui investit avec une optique plutôt long terme, c'est-à-dire dans un contexte qui convient bien à l'aéronautique, dans des PME pour les aider à financer leurs projets de développement, à réaliser des successions, à réaliser des fusions, développement à l'international. Mmh. Etc.
Parfait. Donc ce fonds est, j'allais dire, réactualisé en permanence, toujours disponible. Et je veux dire, c'est une initiative qui date de quelques années déjà.
Années. Il y a d'abord eu une première version Aérofund 1.
D'accord.
Aérofund 2 a été lancé en début 2009.
D'accord.
Je dirais que c'est un acteur aujourd'hui qui compte dans le monde aéronautique et en particulier auprès des PME.
Ouais.
Il a fortement contribué à renforcer un certain nombre de nos fournisseurs et certains d'entre eux émergent maintenant comme des ETI.
Extrêmement important. Dernier élément, et ça forcément ça fait plaisir à un président d'association, vous avez un indicateur très fort de surveillance d'application de la loi LME.
Parce que c'est
effectivement un grand cri, toutes les associations d'entrepreneurs en ce moment sur les... Alors, non pas son application, mais les dérives à son application de la part d'un certain nombre d'acteurs qu'on ne citera pas. Mais effectivement, qui trouvent toujours des moyens de repousser les choses. Là, vous avez mis un indicateur très fort et vous le surveillez extrêmement précisément. Et ça, ça me paraît très important, on peut le citer.
Oui, bien sûr. De toute façon, nous, on se conforme de façon vraiment systématique à la LME.
Oui.
Le cas échéant, pour aider un certain nombre de fournisseurs... Dans le passé, on a même raccourci provisoirement encore plus les délais de paiement. C'est pas pour nous. Pour nous, c'est absolument pas un outil qu'on cherche à utiliser pour
faire de la trésorerie,
récupérer du cash. Ouais. C'est pas notre intérêt. Ouais. Nous, notre priorité, c'est vraiment renforcer la supply chain.
Et d'avoir des acteurs solides.
Solides.
Ouais. Alors, on finira en guise de conclusion avec des succès. Alors, il y a deux noms que j'ai retenus. Le premier est facile à retenir, c'est le piston français. Donc, c'est une belle histoire de comment on transforme une PME en ETI, puisque vous disiez qu'ils étaient juste à la frontière, ils étaient en train de le devenir avec son nouveau dirigeant et une histoire de succès de coopération avec Safran.
Oui, bien sûr, c'est une entreprise historique du groupe Safran.
Oui.
Et en quelques années, en fait, il y a eu une succession réussie. Hein. Aujourd'hui, c'est Thomas Corbel qui préside cette société. Il a réussi à restructurer à la fois son activité en France, à la développer à l'international au travers d'un certain nombre de mouvements très bien pensés.
Oui.
Aujourd'hui, une activité en Pologne, une activité au Maroc. Et c'est une société qui a fortement réduit son taux de dépendance au travers de son développement international. Et bon, ils prennent des contrats maintenant avec des clients nord-américains.
Parfait. Monsieur Desmond, merci. On va laisser la parole quelques minutes à notre ami Emmanuel Leprince du PAC PME, parce que vous collaborez de façon assez forte au PAC PME sur la partie internationale, sur le fait de trouver des initiatives avec des partenaires dans d'autres secteurs que vous voulez voir émerger comme champion. Donc vous êtes pas mal impliqué dans ce PAC PME qui fonctionne bien. Donc on va laisser Emmanuel nous dire quelques mots à ce sujet.
Oui, bonjour à vous deux, bonjour Denis. Je propose qu'aujourd'hui, on parle d'un des outils mis à disposition des grands groupes par l'association Pacte PME pour les aider à construire, à faire évoluer leur politique en faveur des PME de croissance. C'est ce qu'on appelle le baromètre fournisseur, qui débouche sur un indice de confiance, donc une note sur 100, qui est attribué par les PME fournisseurs des grands groupes à leurs grands clients. L'intérêt de cet outil, c'est qu'on a construit ensemble, PME et grands groupes, une vingtaine de questions. Et ce sont les mêmes 20 questions qui sont posées aux fournisseurs de chacun des groupes. Donc ça permet aux groupes de comparer, donc non seulement d'avoir les résultats de leurs fournisseurs, mais également de les comparer, de se benchmarker grand groupe par grand groupe. Et on va d'ailleurs maintenant sortir des éléments consolidés par filière pour pouvoir avoir des idées globales filière par filière. Le deuxième avantage, c'est que les fournisseurs répondent non pas à leurs clients, mais répondent au pacte PME, qui est donc, je vous rappelle, une association paritaire. Donc elles peuvent se lâcher, elles peuvent dire un petit peu ce qu'elles pensent vraiment de leur relation avec leur grand groupe. Donc je vais vous donner quelques éléments de retour en fait qu'on a eu sur la première vague d'enquête. Et puis préciser, avant de donner ces éléments-là, qu'on propose au groupe d'organiser en restitution des réunions au cours desquelles ils peuvent rencontrer certaines des PME qui ont répondu à ces questionnaires pour ensemble pouvoir avancer sur les pratiques mises en œuvre. Donc les résultats de la première fournée, je vous les donne en consolidé en fait. Je vous donne le résultat, la moyenne pour l'ensemble des grands groupes membres du pacte PME. La note moyenne, c'est 66 sur 100, 6,6 sur 10. Donc on est au-dessus de la moyenne, mais on n'est pas non plus... Enfin, il y a une vraie marge de progrès, on est vraiment à deux tiers. Hein. Donc c'est la note moyenne aujourd'hui de satisfaction, je dirais, de confiance, on appelle ça nous l'indice de confiance, des fournisseurs envers leurs grands clients en France. Deuxième élément, si on rentre un petit peu dans le détail par rapport à ces 20 questions, les réponses qui ont été les plus positives sont pour certaines... pas trop surprenante, hein. Je vais citer un exemple, le fait que les grands groupes n'hésitent pas à s'engager dans la durée vis-à-vis de leurs fournisseurs, en tout cas des fournisseurs existants, ça c'est rassurant, hein. On voit des groupes qui peuvent pratiquer le partenariat, et c'est vrai que sur le terrain, c'est ce qu'on entend régulièrement. Quelque chose de très bien noté également, le respect des engagements contractuels pris par les grands groupes, donc c'est-à-dire qu'on a peu de retour en arrière ou d'abus de pouvoir sur ces sujets-là en tout cas. Une réponse positive, très surprenante, je dois le dire, par rapport à l'ambiance actuelle et ce qu'on entend, c'est les délais de paiement. Les délais de paiement, c'est la troisième meilleure note. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que déjà, les comportements varient beaucoup de grand groupe à grand groupe. Je rappelle que c'est moyenne, c'est sur les grands groupes qui sont au pacte PME. Il y en a 48 aujourd'hui. Donc, il en reste d'autres qui n'y sont pas et qui ont peut-être des pratiques moins respectueuses de leurs fournisseurs. Le deuxième élément, c'est que c'est pas forcément toujours les grands groupes qui payent mal. Les grands groupes ne sont pas toujours en relation directe avec les PME. Et des fois, il y a des mini-grands groupes ou des grosses ETI. Et il y a peut-être là aussi qu'il faut qu'on garde au niveau des délais de paiement. En tout cas, se méfier, ça c'est quelque chose qu'on sait tous, hein, se méfier des images globales qu'on peut avoir et qui ne sont pas forcément toujours réelles par rapport au terrain. Alors sur les aspects un peu moins positifs, je dirais même carrément négatifs, la pire note a été attribuée à la question « information sur les besoins des filiales internationales et des opportunités à l'étranger ». Donc ça veut dire que le portage, et nous on est coupables, hein, le portage à l'international, c'est quelque chose qui continue à pas bien prendre. Qu'est-ce qui se passe? Ben, concrètement, les contacts en France des fournisseurs français, eux-mêmes sont très peu en relation avec les équipes à l'international des grands groupes. Donc on a un vrai sujet ici de progrès, il faut vraiment qu'on relève nos manches tous ensemble. Autre sujet, pour terminer, le partage de marge, et ça c'est pas non plus très surprenant, on est quand même dans des contextes très très contraints, les grands groupes français ne sont pas encore dans l'approche allemande, voire japonaise, de se dire, pour être nous-mêmes rentables, il faut qu'on ait des fournisseurs rentables. Donc il y a une question là sur la négociation de coûts. Peut-être pour terminer, le palmarès, les trois meilleurs. Le troisième, c'était Schneider Electric. Le second, Société Générale. Et enfin, le premier, le CNES, qu'on félicite. D'accord. Voilà, merci à vous deux et à très bientôt.
Je remercie Emmanuel, toujours brillant dans ses chroniques. Et on va, qu'on retrouvera d'ailleurs à chaque fois avec tous nos partenaires. Je vais remercier Monsieur Xavier Desmond qui nous a accueillis très gentiment ce matin et malgré mon retard, donc je m'excuse en public à cette antenne.
C'est moi qui vous remercie.
Chez Safran, vous êtes directeur des achats. Alors, juste en deux mots quand même, en conclusion, combien de personnes travaillent avec vous?
Le réseau achats chez Safran, c'est environ 850 personnes.
D'accord, ouais, donc gros réseau. Ouais.
Donc une grosse partie de ces achats sont réalisés dans les différentes sociétés du groupe.
D'accord.
Et puis, pour tout ce qui est achat indirect, il y a une organisation centralisée qui gère l'ensemble de ces opérations.
D'accord. Donc, au milieu de ces 40 000 collaborateurs qui, eux, constituent l'effectif français de Safran, à nouveau merci, bonne journée et à bientôt. Et moi, je vous donne rendez-vous très vite sur Passerelle PME pour une nouvelle émission aussi passionnante que celle-ci, on l'espère. Au revoir.